Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Que la paix et l'abondante grâce de notre Seigneur Jésus soient sur vous en ce jour encore. Nous voici rendus pour notre formation et nous allons aujourd'hui poursuivre l'étude que nous faisons du texte d'Ésaïe 54. Nous sommes rendus au verset 2. Et nous avons déjà étudié l'élargissement de la tente, qu'on déploie les couvertures sur ta demeure. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec « Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Amen, amen, amen. Nous poursuivons cette étude parce que vraiment, elle est riche. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons commencer par étudier « Allonge tes cordages », cette instruction-là. Nous allons rendre grâce à l'Éternel Dieu notre Père avant de commencer. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, Papa. Tendre Père, nous t'aimons. Tendre Père, nous voici encore réunis pour être édifiés et formés par ton esprit. Nous te disons merci Seigneur pour cette instruction que tu nous as donnée. Pour cette étude que tu nous as donnée au Père éternel, au travers de ce message d'Ésaïe 54. Merci pour ce que tu veux faire dans nos vies, Père éternel. Nous te disons merci. Seigneur, je te rends grâce particulièrement de ce que tu es bon, Père. Parce que tu as permis au Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ce message qui avait déjà été fait en 2013 puisse être refait aujourd'hui parce que tu voulais, Papa, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous amener encore plus en profondeur de la connaissance de ta parole au nom puissant de Jésus. Nous apprécions ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens, prends contrôle de tout, prends contrôle de mon être et enseigne-nous, enseigne ton peuple. Révèle-nous les mystères cachés de l'Éternel. Dis-nous ce que nous avons à apprendre, dis-nous ce que nous avons à retenir, à comprendre, afin de pouvoir mettre en exécution cette instruction que nous donne le Père. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Nous voulons savoir de quoi il s'agit afin de pouvoir les transformer en action dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité au nom de Christ et je chasse tout esprit de confusion, tout esprit d'erreur, tout esprit d'incompréhension. Je sème la compréhension de l'Éternel dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Allonge tes cordages. Nous allons d'abord commencer par voir le sens que la parole nous donne du mot cordage. Essayez de comprendre la signification spirituelle de ça, de cordage. Et ensuite, nous allons voir comment les allonger. Nous allons étudier comment spirituellement nous pouvons allonger nos cordages. Ça peut sembler simple comme ça sur le plan physique, naturel. Allonge tes cordages. Nous savons qu'il s'agit d'étirer des cordes. Mais spirituellement, nous avons déjà compris que les mots ne veulent pas toujours dire ce que nous semblons de prime abord comprendre. Alors, repartons pas à pas et décortiquons ce que ça nous enseigne. Amen. Cordage. Le mot cordage, dit comme ça en français, ça signifie l'action, la manière d'utiliser des cordes pour finaliser un ouvrage. Faire un cordage, c'est utiliser plusieurs cordes et les disposer d'une certaine façon afin que ça puisse constituer quelque chose de précis. Quand on veut par exemple tisser un panier, on utilise des cordes, mais il y a une façon de les tresser pour obtenir un panier. Et le panier devient un cordage, un ouvrage de cordage. C'est valable pour beaucoup de choses. C'est valable pour des gens qui veulent tisser des cordes pour pouvoir bâtir un toit, par exemple. Il y a une façon de construire cela et pour que ça prenne une forme de toit. Donc, cordage est déjà un façonnage que l'on donne à l'ensemble des cordes que l'on a à disposition. Mais que signifie le mot corde? Corde, c'est un lien, c'est un câble, c'est un cordon que l'on obtient en entrelaçant des fils entre eux. Des fils peuvent être de toute nature. On a des fils de nature végétale qui sont les fils de coton, les fils de lin, les fils de cuir, les fils de chanvre, les fils de raffia. Et que l'on peut soit tisser, soit torsader pour faire comme ça, des fils végétales. Ça peut être de nature minérale, métallique. Ça peut être des fils de fer. Ça peut être des fils d'aluminium, etc. Ça peut être même des fils faits chimiquement. Nous connaissons les fils nylon pour faire des vêtements, des fils de polyester, des fils de polyamide et d'autres. Donc, les fils peuvent être de plusieurs natures. Et lorsque l'on les utilise, on les utilise jamais tout seul. Un fil tout seul ne peut pas donner un ouvrage. Il faut que l'on puisse l'entrelacer d'une certaine façon. Donc, en entrelaçant des fils, on obtient une corde. Amen. Voilà. Donc, si nous avons laissé deux définitions en français du mot corde, la Bible nous dit quelque chose. L'Ecclésiaste, qui est un homme sage et qui nous donne son expérience de vie, nous dit, dans Ecclésiaste 4, à son verset 12, il nous dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Ça veut dire, si tu es seul, si quelque chose est seul, et qu'il est même très solide, oui, il peut dominer sur un autre. Mais malgré la solidité de ce qui est seul, deux faibles peuvent résister à un fort. Par contre, il nous informe ici que lorsque une corde est faite avec trois fils, elle ne se rompt pas facilement. Ça veut dire qu'il y a un mystère, une puissance, une force dans l'entrelacement des fils. Amen. Surtout de trois fils. Si une corde est faite avec un fil, c'est une ficelle, c'est faible. Si elle est faite avec deux fils, ça peut être un peu solide, mais trois fils, vraiment, on a là la solidité de la corde. Amen. Et c'est un passage biblique qui nous dit cela. Et quand on regarde dans la Bible, il m'est apparu quelque chose. L'Esprit Saint me conduit à voir quelque chose dans la Bible. Quand on parle de fil et qu'on parle de la plupart du temps de tissu et de revêtement, parce que c'est dans la Bible, c'est surtout ça qui est utilisé, on fait allusion à trois catégories de fils, trois types de fils qui ont conduit à fabriquer trois types de tissus. Pourquoi? Parce que je fais allusion à ça par rapport aux différents types de revêtements dans la parole de Dieu. On a des fils, la plupart sont des fils de lin, la plupart sont faits en végétal. Et ils sont soit des fils laissés tout blancs. Ça permet de faire des tissus blancs pour faire certains types de revêtements. Ils sont soit bleus, et ce sont des fils particuliers qui permettent de constituer des étoffes particulières. Et ce sont des étoffes que l'on utilise dans certaines circonstances, nous allons le voir. Et des fils peuvent être des fils de cramoisi. Ces fils de cramoisi, ou des fils pourpres, sont utilisés dans certaines circonstances aussi. Ce sont des étoffes aussi particulières qui sont utilisées dans certaines circonstances. Ce sont des cordes particulières qui sont utilisées dans certaines circonstances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que les fils, ces fils de lin-là, sont des fils retors qui sont utilisés pour tisser des cordages. Pour faire des choses solides, ces fils doivent être entrelacés entre eux. Amen. Dans ces trois types de fils, nous revenons sur ça et nous voyons dans la perspective quelque chose de particulier. Le fil de cramoisi, nous savons que le cramoisi rapproche au sang de Jésus. Le fil de cramoisi rapproche au sang de Jésus. Le fil de cramoisi fait allusion à l'œuvre à la croix du Christ. Le fil de cramoisi fait allusion aux vêtements pourpres. Le fil de cramoisi fait allusion à l'œuvre du rachat à la croix. Le racheté. Le fil de cramoisi nous projette dans ce domaine du sang du Christ et du rachat de l'homme. Dans Apocalypse 5 à son verset 9, il nous est dit une chose. Et il chantait un cantique nouveau en disant, c'était des peuples, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » On parlait de notre Seigneur Jésus, de l'agneau immolé. « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Wow, notez ce verset quelque part. Tu as été trouvé digne parce que tu as racheté. Nous savons que le sang de rachat s'adresse à la croix, à l'humanité tout entière, à la création même tout entière. Amen. Et nous avons déjà par ailleurs, nous savons que le cramoisi, la couleur rouge, fait allusion donc à l'œuvre du sang dans notre vie. Mais quelle est l'œuvre du sang dans la vie du chrétien? Nous savons que le sang de Jésus nous sauve, etc. Mais quand on parle de sang, oui, on parle en gros de sanctification. On parle de sanctification. On parle de sanctification et le mot sanctification est un mot qui veut dire être mis à part. Être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ a œuvré à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il a versé son sang pour nous sauver. Et si nous avons été sauvés de nos péchés, lavés de nos péchés, c'est pour être mis à part pour Dieu. Nous l'avons, il ne l'a pas fait pour que nous soyons maîtres de nous-mêmes, libres de nous-mêmes, juste comme ça pour voguer dans le monde. Il l'a fait pour que nous soyons mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu, comme tout ce qui est sanctifié pour être mis à part pour Dieu. Je pense à l'Ancien Testament, lorsqu'on sanctifiait les ustensiles qui devaient entrer dans le temple, lorsque l'on sanctifiait les sacrificateurs, les lévites eux-mêmes, pour agir pour Dieu. Lorsque ce peuple avait été mis à part pour le service de Dieu, pour servir Dieu, ils ont été sanctifiés par l'huile. L'instruction a été donnée à Moïse pour ça. Donc on dit qu'ils ont été mis à part. Le sang de Jésus maintenant est venu sanctifier l'humanité pour le mettre à part pour Dieu. Amen. Parce que là nous comprenons la sanctification. Paul nous dit dans Hébreux 12, 14. Il dit « Recherchez la paix avec tout. » Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah. La sanctification est un point fondamental pour quiconque désire vraiment voir le Seigneur, communier avec Dieu, rentrer dans l'intimité de Dieu. J'ai l'habitude d'expliquer que la sanctification n'a pas, et nous le verrons un peu plus tard dans cette étude, que la sanctification n'a pas seulement avoir avec être propre, être pur, ne pas commettre des péchés et tout ça. Oui, ça a à voir avec ça. Mais ça a à voir aussi un peu avec sa consécration. Ça a à voir avec le désir vraiment de se détacher de toutes ces choses pour aller à la communion de Dieu. Pour se rapprocher de l'Éternel. Pour être vraiment à sa disposition. Amen. Et dans ce contexte-là, l'esprit de crainte de l'Éternel doit nous animer. L'esprit de crainte de l'Éternel doit nous animer parce que c'est lui qui établit l'esprit de jugement et de droiture. C'est lui qui nous fait avoir la crainte du péché. Nous devons haïr le péché vraiment et aimer la justice de Dieu. Dieu dit « Recherchez d'abord le royaume et ma justice et tout le reste vous sera donné par-dessus ». Donc, nous devons ici, dans ce cadre de cramoisi, œuvrer nous-mêmes personnellement à notre sanctification. Jésus a fait sa part à la croix, mais quotidiennement, nous devons œuvrer nous-mêmes à notre sanctification. afin de consolider notre mise à part pour l'Éternel. Amen. Nous devons œuvrer en invoquant le feu de Dieu. Ce feu de Dieu-là sur nous-mêmes. Le sang de Dieu sur nous, le feu de Dieu sur nous. Le feu de Dieu pour consumer en nous tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui nous disqualifie de cette communion-là avec l'Éternel. Vous savez, généralement, dans nos assemblées, dans les églises et tout cela, on prie beaucoup en criant « Fire, fire, fire ». Mais en fait, le fire, là, nous les adressons sur d'autres. On les adresse sur l'ennemi, sur le sorcier, sur la grand-mère qu'on pense sorcière, sur l'ami là-bas ou les gens du village qui font ci, sur tout le monde sauf sur nous-mêmes. Non. Il s'agit de ton rapprochement de Père. Il s'agit de l'œuvre de ta sanctification avec Dieu le Père, dont le feu là doit t'aider toi-même à sanctifier, à sanctifier ton cœur, à sanctifier ta vie, pour te rapprocher de Père, pour t'aider à, pour nous aider à nous séparer des choses viles, impures, profanes, du monde, et de s'attacher aux choses de l'Esprit, aux choses qui plaisent à Dieu. Si vous lisez le livre de Galates, en son chapitre 5, vraiment, Paul, vous accoutumerez avec ce que Paul nous explique dans ce processus d'auto-sanctification, de nous sanctifier nous-mêmes, de veiller à notre sanctification par rapport à ça. C'est important. Notre plus grand opposant à l'intimité, à notre intimité avec Dieu, à notre rapprochement avec l'Éternel, c'est nous-mêmes. C'est notre nature. C'est notre vieil homme. C'est notre premier ennemi. Et nous devons savoir et consentir à le détruire, à lutter contre lui, à lui régler son compte, à se dévêtir de ce manteau, de ce vieux manteau, et de revêtir Christ comme un vêtement. Amen. Et c'est dans le domaine de la sanctification. Et c'est ce fil de cramoisi là qui va aider à faire des cordes. Amen. Parce que l'Éternel, quand il nous demande d'allonger nos cordages, c'est une instruction qu'il nous donne à nous-mêmes. C'est un travail qu'il nous demande, nous, de faire. Alléluia. Donc, nous connaissons déjà un des fils qui va nous aider dans nos cordages. C'est le fil de cramoisi. Le deuxième fil, c'est le fil bleu. Le fil de royauté. Le fil de la gloire de Dieu. Savons que le bleu, dans son ensemble, le monde même arrivait à dire le bleu roi. Il y a un bleu roi. Le bleu du roi de gloire. Le bleu du roi des rois. Alléluia, notre Seigneur Jésus. Le bleu aussi, c'est dans la teinte de l'arc-en-ciel. Hein, le rouge aussi faisait partie de l'arc-en-ciel. Nous savons que les sept esprits de Dieu se déclinent aussi dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, nous verrons peut-être dans un autre contexte. Mais ce bleu, c'est le bleu du Fils. C'est le bleu de l'adoption. Le bleu qui nous amène à dire « Abba, Père », à considérer Dieu comme notre Père et à être des fils. Vous savez, être fils est une construction. Alléluia. On est enfant de Dieu, mais on n'est pas forcément fils. Parce qu'on peut être un enfant et on ne reconnaît pas le Père. Pour de multiples raisons. Mais quand on dit qu'on est fils, la dimension du fils établit forcément qu'il y a un Père. Et dans un royaume, dans la royauté, il n'y a que le fils qui puisse hériter du père. Il n'y a que le fils qui puisse prendre le relais ou aller vraiment, véritablement comme ça vers le père et s'associer. Donc c'est une dimension de fils, c'est une dimension de royauté, c'est une dimension où est relâchée la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous devons vivre et aspirer vraiment à atteindre cette dimension-là dans nos vies. Atteindre cette dimension dans nos vies. La plupart du temps, on parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mais dans l'esprit des uns et des autres, quand on vraiment ne prend pas un recul d'essayer de comprendre c'est quoi la gloire, la véritable gloire de Dieu, généralement, on confond la gloire de Dieu avec la gloire des hommes. En ce sens que Les hommes ont une façon de voir la gloire. Les termes qu'on peut utiliser ou les manifestations de cette gloire peuvent même paraître être les mêmes choses. Des choses grandes, grandioses, magnificences, des choses riches, de valeur, etc. L'honneur qu'on peut avoir, le pouvoir qu'on peut vouloir dépasser, etc. Et généralement, on confond la gloire de Dieu avec sa propre gloire qu'on veut avoir ou qu'on pense avoir. Et aujourd'hui, moi, je me demandais, Seigneur, c'est même quoi ta gloire, vraiment? Comment est-ce qu'on peut discerner ta gloire? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, quelque part dans son point, que l'on peut discerner vraiment les manifestations de ta gloire quelque part? De ta gloire quelque part. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de la gloire des hommes. Dieu dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Comment est-ce que nous pouvons distinguer quelle est la gloire de Dieu quelque part? Alléluia. Moi, vraiment, je vais essayer d'étudier ça aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les profondeurs, mais je vais vous relater un tout petit peu les différents axes. Ça fera l'objet d'une autre formation beaucoup plus approfondie. Mais je voulais que vous en preniez conscience. On définit la gloire comme la doxa, la splendeur. Cette splendeur-là, ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est une opinion, c'est une estimation, c'est une appréciation qu'on peut avoir d'une chose. C'est un avis, c'est un point de vue. Et sur ce qui est bon ou mauvais. Ça veut dire que la première façon d'apprécier une gloire est d'abord subjective. C'est-à-dire que c'est tellement relatif que si on ne va pas en profondeur et si on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, que c'est un avis. C'est pour ça que chacun peut juger que de ce qu'il appelle la gloire. Et c'est ça qui est un peu délicat. Donc quand on approfondit et que l'on veut comprendre en se laissant guider par le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, on dit, c'est une expression, elle doit être visible. C'est une expression d'un éclat, d'un rayonnement sur quelque chose ou sur quelqu'un, quelque part. Elle se traduit par quelques points. Elle se traduit par une magnificence. Et la magnificence est relative à la valeur de cette chose. Quelque chose ne peut pas être glorieux de Dieu si elle ne porte pas une valeur de vie. Elle est forcément de grande valeur. Elle a forcément une grande importance. Ce qui est en train d'être fait, ou ce sur quoi c'est vu, a forcément une grande importance, une grande valeur. Pas que tout le monde doit connaître par elle-même ou aux yeux des autres. C'est une expression d'une grande bonté. Ça manifeste de grandes qualités. C'est quelque chose qui est très bien. Et ce très bien-là est reconnu de tous. C'est quelque chose qui suscite l'admiration, qui déclenche en chaque personne une immense joie et un contentement. Vous allez me dire, les choses du monde aussi peuvent être magnifiques et les gens sont contents, etc. Mais si vous regardez tout ce que j'ai cité là dans le prêt, je ne suis pas sûr. Nous verrons après en quoi est-ce que ça diffère de la gloire des hommes. La seconde expression qui caractérise la gloire de Dieu, c'est l'excellence. L'excellence, c'est lorsque l'on veut toujours faire le mieux qu'on peut. Lorsque l'on désire de faire le mieux de ce qui doit être fait. Lorsque l'on cherche à être le meilleur et avoir la meilleure version de ce qui doit être. Dieu est excellent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de bricolage avec Dieu. Ce qui est entrepris d'être fait avec Dieu, vraiment nous devons penser le faire avec excellence, le faire de la meilleure façon. Dieu n'aime pas le travail qui est bâclé. Oh my Dieu, c'est même peut-être pour ça qu'il a voulu que ce thème s'y soit repris. Alléluia. Et soit complété par tout ce dont il m'a nourri entre 2013 et aujourd'hui. Et c'est ce que je partage avec vous, mes frères et mes sœurs. Il faut garder en tête que si tu es en train de faire quelque chose avec Dieu, il veut de l'excellence là-dedans. Il veut de l'excellence. Fais le mieux que tu peux. Fais avec tout ton être. de la meilleure façon que tu peux faire. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'équiper davantage afin que ce qui doit être fait et qui relève de Dieu, qui est en communion avec Dieu, en attachement avec Dieu, soit bien. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas les choses mal faites, même seulement dans ta maison. Si tu ne ranges pas les choses, si tu ne laves pas les choses, si la maison est sale, si ce qui est fait est bricolé, si ce n'est pas machin, la gloire de Dieu ne peut pas venir là. Recherche l'excellence, ma soeur. Quel que soit ce qui t'est donné de faire, ça n'a rien à voir avec les diplômes ou ton niveau scolaire, non. S'il t'est donné de laver les assiettes et ranger la maison de quelqu'un, oh, que la personne là, quand il rame lui-même, il dit, mince, même moi, avec toute ma volonté, je ne peux pas faire comme ça. S'il t'est donné de préparer le repas de quelqu'un, il faut qu'il mange, il se lèche les doigts. Quel que soit, si tu couds les vêtements, vraiment, ne bricole pas, qu'on trouve un fil par-ci, on trouve que l'ourlet est mal, cherche l'excellence dans ce qui doit être fait. Tu vas attirer ainsi la gloire de Dieu qui va descendre là-dessus. Le troisième mot, c'est le mot prééminence. La prééminence, c'est désirer avoir une position élevée. Pas les titres du monde. On est avec Dieu. Désirer être à une bonne position avec Dieu. Désirer être, avoir un positionnement au nom de Jésus qui est élevé. Ne reste pas seulement à te minimiser, à dire que non, moi je reste là. Ça, c'est la fausse humilité. S'il t'est donné d'être dans la maison de Dieu quelque part, dis que dans cette maison, en ce qui concerne les choses de Dieu, on va me voir. Aspire à une position qui influence ou impacte les autres. Ne reste pas seulement là derrière. Quand tu es dans une assemblée et tout, ne dis pas moi je viens seulement faire mon culte et puis je m'en vais. Non. Débrouille-toi, trouve-toi une tâche. Et fais-la avec excellence. Trouve-toi une tâche, trouve-toi quelque chose à faire de façon à ce que tu fais puisse être bénéfique à d'autres. C'est ça l'impact, c'est ça l'influence. Parce que quand tu fais ça, le Saint-Esprit t'accompagne et te dote d'un esprit supérieur. Daniel est la représentation de vraiment cette prééminence. Ça te positionne. Ça te donne une intelligence divine. Ça te donne une grande sagesse qui est induite par la connaissance de la parole de Dieu. Parce que plus tu désires l'œuvre du Saint-Esprit en toi, plus le Saint-Esprit vient en toi. Et t'aide à avoir cette prééminence-là, à avoir cet esprit supérieur-là, à avoir cette grande sagesse-là. Et dans ce que tu vas faire, ça va influencer le reste, ça va impacter, ça va réjaillir sur l'ensemble. Amen. Daniel a fonctionné comme ça. Ça lui a donné vraiment un esprit supérieur. Ça lui a valu, même là où il était, d'être appelé pour venir conseiller les rois. Pour venir conseiller, donner des conseils. On dit qu'il était le plus élevé de tous les satrapes. Tous les conseillers du roi qui grappillaient là. Oh, que ce soit ton nom, ma soeur, mon frère. Le quatrième élément qui fait discerner la gloire de Dieu, c'est la dignité. Et vous savez que la dignité, ce n'est pas seulement, comme disent certains tribus là, dans nos pays, la dignité, là on marche, on fait le gros dos, on est sapé, on est... Non, la dignité a à voir avec le sens des responsabilités. C'est le sens des responsabilités. Le zèle que tu mets à assumer la responsabilité des tâches qui te sont confiées. Notre Seigneur Jésus a été trouvé digne d'ouvrir le livre des sept sceaux vu la façon dont il a assumé l'œuvre à la croix. Oh my God! Quelle que soit la responsabilité que tu prends ou qui t'est confiée, mets du zèle à l'accomplir. Mets en toi-même les moyens qu'il faut pour accomplir cela. Tu n'as pas cherche de l'aide. S'il y a quelque chose qui te dépasse, cherche un concours à l'extérieur. Cherche quelqu'un pour t'aider, pour essayer de comprendre cela. Cherche une maturité plus grande. Cherche une connaissance plus grande qui va t'aider à accomplir la responsabilité qui t'est confiée. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonctionnant comme ça, la gloire de Dieu va descendre là-dedans. Alléluia. Le cinquième trait, c'est la grâce. La grâce, le don de grâce de Dieu. Nous savons que c'est une faveur imméritée. Une faveur divine, un don de Dieu. C'est une disposition comme ça favorable qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, qui n'a pas de logique, qui n'est pas de fait, qu'on n'achète pas, qu'on n'acquiert pas. C'est comme ça et c'est tout. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. On appelle cela de la providence. Dans le monde, on parle de chance. Généralement, on dit, ah, il est chanceux. Celui-là, vraiment, il est chanceux. Il va ici, on lui donne ceci, il va là-bas, il a la faveur, il va là-bas, imagine tout ça. Non. Nous sommes en Christ. Ça n'a rien à voir avec la chance, compris comme dans le monde. Mais avec une faveur divine, une grâce divine, qui est une... C'est une libéralité du Père. C'est ce don de grâce-là qui libère dans les vies. Lorsqu'il voit lui-même le désir que tu as dans le cœur de te rapprocher de lui. C'est ce don de grâce qu'il fait lorsque tu traverses tout le tabernacle et arrives devant lui, prosterné pour dire, Père, me voici, je veux ton cœur, je veux ta main sur ma vie. Quand tu cherches à connaître le désir du cœur de Dieu, il voit cela, il affecte dans ta vie un don de grâce supplémentaire au don de grâce que nous avons en Jésus-Christ, que tout le monde a en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qui confère à lui des choses d'exception. C'est bloqué là-bas pour tout le monde, non. Pour toi, Des choses que les gens font comme ça, sur le fond, à trouver, paf, toi, dès que tu as besoin, c'est là. C'est une grâce, une faveur. Et quand elle les manifeste, on discerne la gloire de Dieu. Alléluia. Le dernier aspect, c'est la majesté. Vraiment, c'est la notion de la majesté qui accompagne cela. La majesté, ça s'attribue à une position de roi, à une position royale, à une position de maître. C'est une reconnaissance d'une condition spéciale, spécifique. Et cette position force le respect, oblige en face une attitude de respect et une attitude d'allégeance. C'est ça la majesté. On dit que la majesté de Dieu remplit les cieux. Quand nous regardons dans Apocalypse, dans Ézéchiel, dans Zacharie, la description de ce qui se passe dans les cieux, comment les anges sont prosternés, comment les vieillards sont derrière Dieu, comment ça se passe là-bas, dans une déférence, dans une allégeance, sans pareil. C'est la majesté de Dieu. La majesté de Dieu. Et quand nous faisons les choses et qu'il y a cette dimension de majesté, ça entraîne forcément de l'admiration et un sincère respect, une sincère allégeance. Pas les choses que les gens forcent. Qu'on dise aux gens, non, si telle personne passe, il faut se courber. Et les gens le font sans même y croire. Il n'y a aucune majesté là-dedans. Parce que quand il y a majesté, c'est fait du plus profond du cœur. Et quand on fait allégeance, en fait, quelque part, on attend en retour d'être adobé. Je vais vous ramener un peu dans la dimension humaine. Rien que les pays où ils ont encore des royautés, prenons l'Angleterre, qui est encore la royauté la plus machin et tout. Quand les gens viennent faire allégeance devant la reine a un geste d'adobement, c'est-à-dire que pour accepter ton allégeance, elle lève la main et elle fait un geste d'adobement. C'est comme un geste de bénédiction. Ça veut dire que quand dans le sens de la majesté, on s'allège au devant du maître, c'est qu'en retour, on attend en quelque sorte un déversement de quelque chose, une bénédiction, une grâce qui doit venir. Alléluia. Parce que dans les cieux, ça se passe comme ça. Les hommes font ça. Ça concerne la reine et ses sujets là-bas. Nous, on a un maître, c'est Jésus-Christ. On a un maître, c'est Jésus-Christ. Et quand nous reconnaissons sa trace quelque part, quand nous reconnaissons sa majesté quelque part, on est en allégeance au devant de lui, de notre maître, de notre Dieu. Et nous savons qu'en allégeance devant le maître, il a son toucher. Il étend la main et nous touche. Il a son toucher. Son toucher qui est plein. Le toucher de Dieu n'est jamais vide. Alléluia. Un don de grâce. Une bénédiction, une délivrance, une restauration. Alléluia. Nous savons cela. Et c'est dans ce sens que la majestuosité de Dieu s'étend. Et quand toutes ces choses sont rassemblées, quand toutes ces choses se regroupent, la gloire de Dieu se sent, se voit et n'est partagée, n'est discutée avec personne. Cette gloire est présente. Alléluia. Et déverse son lot de miracles, déverse son lot de restauration, déverse son lot. Parce que la différence entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu, c'est dans ça. Tout ce que j'ai cité, la lampe te dit, je suis dignité, je suis chef de ceci au village, prééminence, je suis le conseiller du président. L'autre peut dire, je fais de l'excellence, voilà le travail que j'ai fait. On te cite tout ça en main. Mais la différence qu'il y a, ou bien la providence, il te cite toutes les richesses qu'il peut avoir. Ça, c'est une chose. Mais la différence qu'il y a entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu, c'est que dans la gloire des hommes, il n'y a rien. C'est égoïste, c'est vide. Parce qu'un homme qui est glorieux et qui manifeste sa gloire, c'est pour lui seulement. Il est glorieux, sa gloire s'arrête sur lui. Quand il dit qu'il va passer avec ses voitures et avec ses cortèges, il ne prend personne en route. C'est pour lui. À la limite, il éclabousse les gens qui sont au bord de la route. Même quand ils disent au pays, qu'ils se lèvent pour faroter les gens, etc. C'est avec hauteur. Et il n'y a aucune grâce dans ça. La gloire de Dieu, tranquillement, elle inonde tous ceux qui sont là. La gloire de Dieu ne peut pas descendre à un endroit et ne pas, contaminer, envahir tout le monde et déposer la vie. Elle redonne vie aux ossements desséchés. La gloire de Dieu met dans la joie, dans le contentement. C'est la gloire de Dieu, mais tout le monde est content de ce qui se passe. Alléluia. Alors que quand la gloire de l'homme, quand ça va passer, les autres, il y en a qui l'insultent. Donc, mes sœurs, mes frères, c'est important que nous comprenions ce fil bleu. C'est important que nous comprenions la dimension de ce fil bleu et que nous désirons vraiment déclencher la gloire de Dieu, faire descendre la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Alléluia. Faire descendre la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Amen, amen. Et désirer sincèrement, avec la quête en l'Esprit Saint, pouvoir chérir ces choses, chérir le royaume de Dieu, chérir la position de royauté. Alléluia.